Merci à la chorale, vous c'est le Men's Choir. Pour cet après-midi, nous avons un orateur qui sera traduit dans deux langues. Donc, on va nous adresser dans une autre langue, et ensuite, ça sera retraduit en anglais et en zoulou. Sakia, s'il peut venir de l'avant, ce jeune homme, le Seigneur a démarré une œuvre au Mozambique. Il est l'un des prédicateurs qui nous assiste dans la prédication de l'Évangile au Mozambique. il va partager son témoignage et comment l'œuvre progresse au Mozambique. Je remercie le Seigneur qui me donne cette occasion. J'aimerais d'abord saluer nos pères qui sont ici. J'aimerais également saluer les tantes et les mamans. Et j'aimerais saluer chacun d'entre vous, tout particulièrement les jeunes qui sommes ici. Je m'appelle Zakiou. Et je suis du Mozambique. Je suis née au Mozambique. J'ai grandi comme tous les autres enfants. J'ai grandi en n'ayant aucune connaissance de l'Évangile. J'étais dans le monde. Je suis allée à l'école. J'avais un problème à l'école, c'est que je faisais que de redoubler. À 14 ans, j'étais toujours vers le CE2. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devrions rigoler. Écoutez attentivement et essayez de comprendre pourquoi à 14 ans je me retrouvais encore en CE2. Parce que ce que les professeurs enseignaient ne restait pas dans mon cerveau. Je n'arrive pas à l'enregistrer. J'étais très désobéissant. Et je me battais avec les autres. On ne pouvait pas me toucher. Et à l'école, je ne savais rien. Je suis si reconnaissant que j'ai pu rencontrer l'Évangile. À travers de la mission. Pasteur Carlos Villanculos est venu ici depuis le Mozambique et il est resté sur la mission pendant 7 ans. Il est venu avec 7 autres pasteurs, ils sont venus ici et ils sont revenus vers leur pasteur et ils ont dit, parce que le pasteur Carlos avait du mal à prendre, il est resté en arrière. Ils avaient été envoyés par leur pasteur de venir à Sisabantou pour apprendre sur la mission. Pasteur Carlos a réalisé qu'il avait tant à apprendre qu'il est resté en arrière pendant 7 ans sur la mission. Le fait que je mentionne cela, c'est que les 6 autres sont repartis au Mozambique, sont tombés dans le péché. Certains sont encore en vie. Pasteur Carlos a senti qu'il avait appris assez et il a partagé avec le pasteur Stegen qui voulait repartir au Mozambique parce qu'il avait appris suffisamment. Le pasteur Stegen Elle était d'accord et elle a encouragé à repartir pour prêcher l'évangile au Mozambique. Et ça, c'était dans les années 2000. Et c'est là que j'ai rencontré, ou j'ai entendu parler de l'évangile qui était prêché à Kwasi Sabantu. Oui, donc j'ai oublié qu'il est rentré à la maison d'abord à Maputo. Donc, mon neveu était un de ces premiers convertis qui a reçu l'évangile. Et quand nous avons entendu son message, nous avons réalisé que ce n'était pas le même évangile qui était prêché ailleurs. C'était un évangile qui était différent. Sa prédication parlait de Jésus et il nous enseignait comment Jésus a abandonné sa vie pour nous sauver de notre péché. Et nous avons entendu dans sa prédication qu'il n'y avait rien qui était trop difficile pour Jésus pour te libérer. Et nous l'avons entendu parler de la confession des péchés et comment Jésus peut te pardonner ton péché. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose de facile de comprendre ce qui est réellement le péché. Cela a pris du temps, mais il y a eu ce temps où j'ai compris ce que cela signifiait, que j'étais un garçon qui était sans arrêt en train de me battre, que lorsque j'étais plus jeune, je n'écoutais pas mes parents. Et alors, j'ai commencé à mettre ma vie en règle et à confesser mon péché. Et même à l'école, j'ai commencé à ressentir une différence. Là où nous sommes allés au Mozambique, on allait à l'école de janvier à juin, on écrivait un examen, et on voyait si on réussissait, et ensuite il y avait un autre 6 mois jusqu'à décembre d'école. Et le Seigneur a vraiment aidé de juin à décembre. J'ai pu écrire à mon examen et le réussir. Et à partir de ce moment-là, je passais d'une classe après l'autre. Et je n'avais plus besoin de redoubler. Et à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur, de grade 5 à grade 10, j'ai été, donc toutes ces classes d'adolescence, j'ai été un exemple. Non seulement pour ma classe, mais pour l'école entière. Et les professeurs ont pris mon exemple et ont dit, regardez à la façon dont je me comporte, dont Zacchaeus se comporte et comment il s'habille. Et pasteur Carlos nous a enseigné à lire la Bible et il nous posait des questions à mon neveu et à moi. Il nous posait des questions sur la Bible et voulait savoir si ce que nous avions retenu. Avant, Avant de se convertir, c'était pas facile de lire la Bible. Mais après sa conversion, la Bible devenait quelque chose de compréhensible. Et lorsqu'il nous posait des questions, ce n'était pas comme si nous répondions d'une façon brève, mais nous pouvions répondre d'une façon complète. En réalité, c'était mon neveu qui pouvait raconter l'histoire entière. Et moi, je n'arrivais pas à raconter l'histoire en entier. Et alors, mon neveu se moquait de moi. Et je veux remercier le Seigneur qu'il m'a aidé parce que je suis arrivée au point où je pouvais lire la Bible soir et l'or. Et je pouvais raconter à M. Carlos l'histoire et lui expliquer comme je l'avais compris. Ce n'était pas en accord avec ma sagesse, ma capacité, mais j'ai continué à mettre ma vie en règle et c'est ainsi que le Seigneur m'a aidée. En 2005, le temps est passé et j'ai ressenti l'appel d'aller prêcher l'Évangile. J'allais de maison en maison pour parler du Seigneur et pour répandre l'Évangile. À cette époque, j'avais votre âge et j'allais d'une maison à l'autre pour parler du Seigneur Jésus. une autre branche s'est ouverte au Mozambique. Et mais la distance était il y avait une certaine distance et ça nécessitait que moi j'aille me déplacer là-bas pour prêcher également là-bas. Mais le diable ne se fatigue pas, frères et sœurs. Et que tu es une mère ou une mère, le diable continue à essayer de t'attraper. Quand le temps est venu que je sois bénie pour le mariage, il a veillé que tout se passe comme les principes de la mission ici. Comme. Parce qu'il nous a enseigné, comme un garçon, une fille, nous ne pouvons nous retrouver si ce n'est à moins que si ce n'est par le mariage. Le temps est venu où j'ai ressenti dans mon cœur et je me suis rendue vers le pasteur Carlos et j'ai prié et je lui ai dit, je sens que le Seigneur me conduit de me marier avec telle personne. Si nous lisons dans 1 Pierre 5, 7 à 9, il est dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous enseigne que nous devrions rester pur et attendre pour le bon moment. Et donc, il y a un temps assez long qui s'est passé où j'ai ressenti le pasteur Carlos ne sent pas que ce soit juste que je me marie. Et frères et sœurs, il y a ce passage dans la Bible qui dit « Mes voix ne sont pas vos voix ». Ces voix ne sont pas nos voix. Il y a eu un temps où, au lieu d'attendre les voies de Dieu, où j'ai choisi mon propre chemin, et j'ai décidé par moi-même que le pasteur Carlos ne voulait pas que je me marie. J'ai pris les choses dans mes propres mains. Je me suis rendue directement vers cette jeune fille et je lui ai expliqué tout ce que je ressentais jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de ses parents. Et pendant tout ce temps, j'ai fait les choses à ma façon et non pas selon le plan à la façon que Dieu voulait. Les choses ont continué et j'ai été conseillée par les parents. Nous avons vécu ensemble. Et jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du pasteur Carlos, et il nous a demandé de quitter l'église. Et j'ai eu la fille que je voulais dans ma vie, et au lieu d'être heureux, j'étais remplie de tristesse. Et là, je me suis assise et je me suis dit, est-ce que je dois aller dans une autre assemblée? Et la pensée est venue, non, je ne peux pas aller dans une autre assemblée parce que je connais la liberté, je sais la vérité et je ne trouverai pas cette vérité dans une autre assemblée. Je trouvais que dans d'autres assemblées, je ne recevais aucune satisfaction Il disait des choses que, avec laquelle je n'étais pas d'accord. Et j'ai dit, c'est peut-être préférable que je reste à la maison. Et alors, la pensée est venue de démarrer ma propre assemblée, mais j'ai eu ce verset qui m'est venu, ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Donc, ce que j'ai lié sur la terre est lié au ciel. Je n'étais pas heureux. Et finalement, j'ai réalisé, j'ai la femme que je voulais, mais je ne suis pas satisfait, je ne suis pas heureux. Et le pire, c'est que je l'ai quitté, je n'étais pas satisfait et je suis allé vers d'autres femmes. Matthieu 12, versets 43, 44, 45, on entend parler de l'esprit impur qui quitte une personne et cherche à aller à d'autres endroits. Et s'il ne trouve rien, il revient, il re-rentre dans la même personne. Il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et je me suis retrouvée à faire des péchés que je n'avais jamais commis auparavant. Et j'ai réalisé que ces sept autres esprits étaient rentrés et me faisaient faire des choses que je n'avais jamais commis auparavant. Et en 2013, j'ai réalisé que j'ai resté assis à la maison. J'ai vu que je ne sais rien, je n'avais pas de travail et j'ai décidé de partir à Pretoria pour chercher du travail. j'ai trouvé du travail, travaillé pour moi-même et je ramenais de l'argent à la maison à ma femme au Mozambique, mais je vivais avec d'autres femmes entre-temps et ma femme, ma propre épouse, a réalisé qu'elle allait sûrement me perdre. Et finalement, nous disputions comme des chiens et chats. On se disputait et balançait le téléphone et se cassait et ça se répétait sans cesse. Finalement, ma femme et moi nous sommes rendus vers Pasteur Calors après un long moment. Et c'était très difficile pour moi de revenir d'où je venais, du standard que j'avais vécu auparavant. Et bien que la prédication était prêchée, je ne le comprenais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais ces sept esprits et je ne pouvais pas comprendre. Ces sept autres esprits qui étaient revenus. En 2020-2021, le pasteur Carlos est tombé très malade et j'étais à la maison et je me suis rendue là-bas. Il est tombé très malade et finalement il est décédé. quand il est décédé, nous avons l'avons annoncé à la mission et les pasteurs d'ici sont venus pour l'enterrer. Et quand ils sont venus, j'ai écouté le culte pendant l'enterrement. Et alors que le cercueil a été mis dans la terre, j'ai entendu cette voix qui a dit maintenant, ici se trouve le cercueil et tu as tout entendu de lui. Et la voix m'a dit, ici est l'église où tu as été enseigné, est-ce que tu serais satisfait s'il n'y a plus rien, s'il n'y a personne qui continue et que l'église doit se fermer ? Et lorsque les pasteurs sont repartis, elle a dit, maintenant le pasteur Carlos est enterré, il t'a tout enseigné. Et il dit, c'est à toi à continuer. Et je leur ai répondu, mais comment est-ce que je peux continuer alors que je vis dans le péché ? J'ai demandé au Père spirituel ici si je pouvais visiter la mission. Et ils ont été d'accord que je vienne. Ils m'ont dit, tu es le bienvenu. Ils sont repartis et je suis allée à Pretoria et je me suis dit, il faut que je continue avec l'œuvre de Dieu. J'ai appelé les oncles ici pour leur annoncer que j'allais arriver et ils m'ont dit où tu es le bienvenu. Je suis venu ici, j'ai mis toute ma vie en règle et je veux remercier les pères et les mères qui ont pu m'aider pour que je puisse mettre ma vie en règle. Et je veux remercier le Seigneur qui m'a ramené dans son œuvre. Je suis revenue vers ma femme, j'ai mis les choses en règle avec elle et avec tous ceux vers qui j'avais chuté. Il n'y a plus de disputes par le téléphone. Nous pouvons utiliser un téléphone pour tous les deux. Merci beaucoup, Zacchaeus. Pour ce qu'il a partagé avec nous. Certains jeunes doivent déjà partir avec le bus. Le thème de cette conférence est « Oh, donnons notre reconnaissance vers le Seigneur » dans 1 Chronique 16-8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et j'espère qu'en écoutant le témoignage de ces enfants, nous pouvons apprendre beaucoup de leur vie. Nous allons demander à oncle Peter Töpfer . Il va venir de l'avant et partager ce qu'il a sur son cœur. Il vient d'Allemagne. Elle fait partie de l'œuvre que Dieu a commencée et qui continue encore en Allemagne. Je souhaiterais vous saluer tous au nom du Seigneur, au nom du nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été confirmé par ce que notre frère a partagé. Celui qui quitte la maison céleste va atterrir dans la porcherie. C'est pourquoi nous devons être encore plus reconnaissants pour ce que le Seigneur fait parmi nous. Je me réjouis encore qu'il y ait tant de jeunes parmi nous maintenant. Nous vivons dans des temps difficiles. Et il y avait on a toujours l'espoir que les choses vont aller mieux, mais celui qui espère en cela va être déçu. Je viens d'Europe. D'Allemagne. Et je connais un petit peu l'Europe. Je pensais toujours que ce n'était qu'en Europe qu'il y avait des enfants qui sont mal élevés. Mais en 1984, quand je suis venue à la conférence de jeunes, là, j'ai également trouvé des enfants qui n'étaient pas très bien élevés. Mais nous sommes reconnaissants lorsque nous entendons parler des fruits qui sortent de ces conférences. Dans ces derniers jours, dans une des prédications, il a été dit la chose suivante. Ils ont utilisé un verset de la Bible. Il y a plusieurs passages qui ont été mentionnés, mais un dans le livre des Romains. L'homme qui n'est pas reconnaissant, qui ne donne pas sa reconnaissance à Dieu. Celui qui n'est pas reconnaissant, le Seigneur l'a abandonné. Jusqu'à le point où le Seigneur, non, pardon, le cœur reste sombre jusqu'au point où la personne se tourne vers Dieu et le Seigneur change sa vie. Et la pensée m'est venue, est-ce que ces enfants sont mal élevés parce que leurs propres parents n'ont pas donné la reconnaissance, ne leur a pas enseigné, n'a pas enseigné à leurs enfants à remercier le Seigneur? Alors, nous ne pouvons rien attendre d'autre. Nous ne pouvons rien attendre des enfants. Nous apprenons aux enfants à dire merci, dis s'il te plaît, mais est-ce que nous apprenons à nos enfants à remercier Dieu? Est-ce que nous le remercions assez? Je ne suis pas née dans une famille croyante. Mes parents ne voulaient rien faire avec Dieu. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai été élevée, j'ai grandi avec comme tous les autres enfants qui ne sont pas croyants. Vous devez savoir que ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Mes parents voulaient faire de moi un homme correct. Mais il y avait une grosse difficulté. Et c'était moi parce que je ne voulais pas. Je ne voulais vivre ma propre vie et que personne ne me dise quoi que ce soit. Et alors, en tant qu'enfant, j'étais un menteur, quelqu'un qui trichait. Je me battais, je criais, je me disputais, tout ce qui allait avec. Et je fuyais l'école. J'évitais d'y aller et quand j'y allais, les profs n'osaient plus rien me dire. Ils ne pouvaient rien me dire. Et j'ai commencé à aimer le mal. J'aimerais lire une parole dans Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Avec Dieu, il est possible que Dieu fasse sortir des pierres des enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, nous avons Abraham pour père. Mais pour être un fils d'Abraham, en premier lieu, nous devons être obéissants en toutes choses. Et lorsque j'ai pensé à ces pierres, et que le Seigneur peut faire sortir de ses pierres ses enfants. Alors j'ai reconnu que j'étais une de ces pierres. Et tout ce que j'ai traversé en tant qu'enfant, mon cœur est devenu de plus en plus dur. Et à la fin, mon cœur était mon cœur était si dur qu'il a fallu une énorme masse, marteau, pour briser cette pierre. Et je ne peux que remercier le Seigneur pour cette parole. Et pendant tous ces cultes, nous avons entendu comment le Seigneur est capable de faire quelque chose à partir de pierres. Il y a des mères qui pleurent sur leurs enfants parce que s'ils reçoivent une réponse de leur enfant, c'est comme si cet enfant lui lançait des pierres dessus. Et plus tu vis cette vie, plus tu t'endurcis, plus cette pierre devient dure. Maintenant, chacun peut tester la condition de son cœur. toute ma vie de mensonges, de méchanceté, ne s'est arrêtée que lorsque je me suis convertie. J'étais une honte pour mes parents. Ils avaient tellement de problèmes avec moi que la seule chose qu'ils voulaient, c'est se débarrasser de moi. Ils ne pouvaient rien faire avec moi. Je voulais toujours l'inverse. Et dans la vie du péché, c'est exactement ce que tu recherches. Et alors, nous étions toujours de plus en plus de garçons qui se retrouvaient comme une gang. Et chacun d'entre nous voulait être le plus grand et le plus fort. Et il en était toujours qui c'est qui avait le plus de force. Et alors, le plus tôt possible, on a essayé l'alcool et les cigarettes. Dans les magasins, où que nous allions, nous attrapions et nous mettions tout ce qu'on pouvait dans nos poches. Et souvent, c'était des choses qu'on n'avait même pas besoin. C'était simplement pour se vanter devant les autres et dire « Regarde ce que j'ai réussi à faire. » Des gangs d'enfants, des gangs de jeunes. Et tout cela, je l'ai expérimenté et mes parents avec. Un jour, j'étais assis avec ma mère à table et elle m'a dit la chose suivante. Si tu continues à vivre ainsi en tant qu'enfant, alors que tu es encore enfant, tu vas atterrir en prison. Et vous savez pourquoi il en est venu à cela ? Pourquoi il en est venu à cela ? Ce mensonge, ce vol, cette violence, tout cela est criminel. Elle pouvait déjà identifier cette énergie criminelle en moi. Parfois, les enfants, les parents disent, ah, ce ne sont que des enfants. Et ils ne comprennent pas l'ampleur de leurs actions. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle comme cela? J'étais également un enfant. J'étais plus un bandit ou un criminel plutôt qu'un enfant pour mes parents. J'étais celui qui ne se laissait rien dire à l'école, qui avait la plus grande bouche. Dans ma dernière année d'école, J'ai menacé mon professeur et j'ai dit malheur à vous si je vous retrouve seul, si je me retrouve seul avec vous dans la rue. Et il a pris très sérieusement. Après l'école, j'ai commencé un apprentissage dans la ferronnerie. J'avais déjà sur mon CV les premiers vols. Et c'était le temps où le rock and roll faisait son apparition en Europe. Il y avait plusieurs bandes qui se présentaient en concert. Alors bien sûr, automatiquement avec cela, venez la drogue. Et le plus tôt possible, dans la vie, j'ai commencé à fumer ça. La drogue, l'alcool, toutes les parties, c'était le menu des week-ends. Et alors, le thème numéro 1 s'est présenté. C'était les filles. C'est incroyable comment quelqu'un peut changer lorsqu'elle essaie d'avoir une fille. Le plus grand bandit que j'étais, je pouvais me transformer en gentleman. Tu peux devenir l'acteur parfait si tu ne connais pas le Seigneur. Et alors, on attirait les filles vers ses portiers. Et nous buvions de l'alcool, mais les filles à cette époque-là ne buvaient pas d'alcool. Mais ensuite, nous les avons convaincus que l'alcool était quelque chose de bien. Tu peux tout oublier. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Tu peux être heureux. Tu peux tout oublier. Demain, tu ne te rappelleras pas de ce que tu as fait hier. Alors pourquoi n'essaies-tu pas? Et lorsque les filles sont sous, alors c'est facile d'avoir ce que tu cherches. Les filles, faites attention comment vous vous comportez devant les garçons, spécialement ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils n'ont qu'une chose dans la pensée. Faites bien attention aux garçons. Lorsque les garçons viennent et ils sont tout gentils. Il n'y a personne qui ne peut mieux mentir qu'un garçon lorsqu'il veut attraper une fille. Il y avait certains endroits où nous savions que c'est les endroits les plus faciles pour entrer en contact avec des filles. C'était dans nos années d'adolescente où nous allions dans les discos, c'était quelque chose qui était tout nouveau des États-Unis. Et je reviendrai vers cela un peu plus tard. Et avec tout ce qui se passait autour de moi, tout cela, cette pensée a grandi en moi dès que j'ai 18 ans, je quitte la maison. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai 18 ans. J'ai quitté la maison, j'ai fini mes études et je me suis rendue dans une grande ville, dans la grande ville de Hambourg. Et un autre point par rapport à la musique. Je veux juste rajouter quelque chose entre deux. après ma conversion, j'ai rencontré beaucoup d'addicts de la drogue. Et j'avais toujours une question à leur poser. Est-ce que tu as d'abord combiné la drogue et la musique et ensuite tu as touché la drogue? Ou est-ce que tu as touché la drogue et ensuite tu as combiné la drogue et la musique? La plupart d'entre eux disaient « on a d'abord entendu la musique ». Et donc, cela me donne, nous laisse avec cette pensée, ce point, c'est que la première drogue rentre par les oreilles. Peut-être que tu es encore petit et tu écoutes volontiers ce type de musique. Et tu ne prends pas de drogue. Mais tu es en route vers la drogue. Je peux en témoigner de ce qui était dans ma vie et ce que d'autres ont également partagé et mentionné. Alors faites attention avec la musique. Et de Hambourg, je suis allée sur l'océan. Hambourg est une grande ville de l'Allemagne. C'est connu dans le monde entier parce que il y a une ville nocturne. Comme à Johannesburg, il y a différents endroits. Donc, nuit et jour, dans cette partie de la ville, 24 heures sur 24, les bars, les brasseries, les discos, tout est ouvert. Et c'est là que je me suis rendue lorsque j'étais à Hambourg. Et à partir de ce moment, j'étais déjà un criminel professionnel. Je suis allée sur un navire vers l'Amérique du Sud, en Europe, au Maroc. Et après un an, j'ai abandonné le fait d'être sur un navire, d'être un marin. Je suis revenue. J'ai commencé à passer mon temps dans les discos. Et donc j'ai commencé à travailler comme barman. Dans les discos. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu une copine qui était une prostituée. Et plus tard, j'avais ma propre maison de prostitution. Et ce cœur qui s'était endurci en tant qu'enfant est devenu encore plus dur. Et alors, d'autres choses se sont rajoutées à ma vie. Nous avons fondé un nightclub. Et la police était à notre recherche. Donc, je suis devenue un proxénète et j'étais un dealer de drogue. Des maisons de jeu. Nous étions une union où nous avions plusieurs maisons de prostitution. Et dans cette vie nocturne, nous contrôlions une grande partie de cette ville. Nous étions plusieurs partenaires. Nous faisions ce que nous voulions, que ce soit légal ou pas légal. Tout ce que nous voulions faire, c'était de gagner de l'argent. Et là, j'arrive à un point où, même encore aujourd'hui, j'ai honte d'en parler. Donc, pendant 20 ans, j'ai vécu dans cette vie nocturne. Et pendant toutes ces 20 années, j'ai poussé tant de jeunes filles dans la prostitution. Et la loi qui dirigeait notre pays nous a en réalité aidé dans cela. Les jeunes filles à 18 ans devenaient adultes et pouvaient faire ce qu'elles voulaient avec leur vie. Et il devenait toujours plus en plus facile de pousser ces filles dans la prostitution, les filles dans la prostitution. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. C'est quelque chose que le regrette éternellement. Et nous, en tant que groupe criminel, cette union de criminels, nous nous retrouvions toujours dans un certain café où il y avait de la drogue. Et alors nous fumions du hashish, nous buvions de l'alcool, marijuana. Tout ce qui était possible. Maintenant, la plus belle partie de mon histoire commence. J'espère que de ces premières paroles, vous avez appris quelque chose. Ne te promène pas aux alentours en traitant ton corps à la légère. Il y a des forces maléfiques qui veulent te pousser dans l'obscurité. Et ils viennent dans ta vie comme une douceur, comme quelque chose, comme du, aussi doux que du miel. Mais dans ce café, il y avait un jeune homme. Un jeune homme est venu vers nous qui s'était converti auparavant. Je me suis souvent tenue dans la cour de justice et j'ai souvent prié, bien que non croyant. Je n'ai pas fermé les yeux et joint mes mains. Mon cher Dieu, aide-moi à sortir de cet endroit en un seul morceau. Et il semble que Dieu a entendu cette prière. J'ai été pas condamnée et je pouvais continuer comme une personne normale. Et j'ai été sauvée, je n'ai pas eu à aller en prison. Et pourtant, je méritais d'aller en prison toujours à nouveau. Et donc, nous sommes assis avec cet homme qui disait qu'il était sauvé. Et il essayait de nous convertir, nous criminels. Mais il fumait du hashish avec nous, buvait de l'alcool et nous parlait du Seigneur Jésus. C'était intéressant pour nous parce que nous pensions tous que nous connaissions la Bible. Nous savions que le Seigneur dit qu'il aime également les prostituées. Donc il n'y a rien de mauvais avec nous, parce que nous aussi, nous les aimons. Et alors, nous savions que le Seigneur avait changé de l'eau en vin. Donc on a dit, apportez-nous la bouteille. Et alors, nous lui avons demandé de quoi devons-nous nous convertir. Elle a dit, mais vous devez arrêter de vous rendre vers les prostituées. Arrêtez de ce trafic de prostituées. Mais tu fumes avec nous, tu bois avec nous, et maintenant tu nous dis d'arrêter avec les prostituées. Les prostituées sont celles qui nous apportent l'argent. Et alors, il doutait. Il nous a tant parlé. Il nous parlait tant du Seigneur Jésus que personne ne s'est converti. Et finalement, il s'est agenouillé devant son lit. Et il a prié sérieusement. Il a dit, Seigneur, si tu es réellement là, alors permets que cela change, sinon il vaut mieux que j'aille rejoindre les autres. Et alors, le premier miracle s'est passé. Et il a reçu un tract sur la mission en Afrique du Sud. Il a dit, je vais prendre l'avion, je vais aller voir ce qu'il en est. En 1980-81, c'est là qu'il s'est rendu ici. Et à la maison, dans notre café, il nous a manqué. Nous l'appelions le pouvoir des fleurs, le chrétien du pouvoir des fleurs. Il avait toujours des cheveux longs, blonds, et puis une chemise de couleur. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu dans cet état. Et 3 mois plus tard, lorsque je me suis rendue au café, il s'est avancé vers moi. Je l'ai à peine reconnu. Et j'ai dû lui demander, mais est-ce que c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Ouais, j'ai dit, mais pourquoi? À la façon dont tu ressembles. Il est revenu complètement changé. Il avait coupé ses cheveux et il avait un pantalon normal, une chemise ou veste normale. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais alors je lui dis, mais d'où tu viens? J'étais en Afrique du Sud. Oh, t'étais chez les Noirs? Oui. Vous pouvez vous devez vous imaginer, moi, Européen, là. Je m'imaginais le missionnaire comme un homme blanc dans un gros chaudron et puis des noirs avec leurs lances qui sont en train de le lancer sur le chaudron. Dans le chaudron. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Elle a dit, j'ai confessé mes péchés. Il semble qu'on t'a fait un lavage de cerveau là-bas. Il m'a dit, le Seigneur Jésus m'a parlé. Alors j'ai pensé, non, maintenant il est devenu complètement fou. Jésus lui parle maintenant. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur Jésus? Il m'a dit, retourne dans la banque que tu as cambriolée. Là où tu faisais ton trafic. Et alors, j'étais sans voix. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis rendue dans cette banque. Et j'ai dit ce que j'avais fait. Il dit, mais si tu t'es présenté devant les autorités, tu serais en prison, tu ne serais pas là. Et alors, il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Jésus m'a aidé. Que les autorités de cette banque m'ont envoyé à la maison et ont dit, continue à marcher dans cette voie, dans cette nouvelle voie. Je pensais que j'étais quelqu'un qui avait qui était très courageux, mais quand j'ai entendu qu'il était allé se rendre et dire ce qu'il avait fait auprès des autorités, j'étais sans voix. Sa vie a complètement changé. Et en moi est venue cette pensée, si je pouvais changer tout à nouveau et recommencer à zéro, c'est ce que je ferais. Mais en moi, il y a eu un brin d'espoir d'abandonner toute cette vieille ma vieille vie. De la délaisser, de pouvoir la quitter parce que cette vie devenait de plus en plus dangereuse. Je voulais mettre fin à cette vie. Et il m'a invité à une conférence où ces missionnaires d'Afrique du Sud venaient parler en Allemagne. Et donc, je me suis rendue à une de ces réunions. Et dans cette réunion, le pasteur Erlo Stegen a parlé. Quand il a parlé de l'infidélité dans le mariage et tous les plaisirs de ce monde dans la chair, et alors je me suis dit, mais qui c'est qui lui a raconté ma vie? Une voix est venue en moi. Tu es en route vers l'enfer. Il n'y avait personne qui me connaît, qui me parlait. Mais pour moi, c'était si clair, ce que j'avais entendu était vrai. Je me suis rendue finalement vers lui. J'ai appris à le connaître. Et alors, je lui ai dit, mais tu connais déjà mes péchés, alors je peux te raconter le reste de ma vie. Il a prié et j'ai pensé, je peux voler. Un grand fardeau est tombé de mes épaules. À ce moment-là, c'est devenu clair pour moi. Va et demande pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal, surtout les familles de ces filles que tu as emmenées dans la prostitution. Et là, un miracle s'est passé. Toutes les personnes vers qui je me suis rendue pour demander pardon m'ont pardonné. J'ai amené mes péchés à la lumière. J'ai restitué avec chaque personne. Un jour, j'étais dans un endroit où la chorale de Kwasi Zabantu chantait. En Europe. Et dans une de ces réunions, le prédicateur a demandé à l'assemblée à quel esprit est-ce que tu appartiens? Et cela m'a frappée comme si un éclair m'avait touché, la foudre m'avait touché. Immédiatement, j'ai vu comme un grand sac qui allait jusque vers le ciel. Et le fardeau de ce sac, de ce fardeau, était si immense que je suis allée dans la pièce adjacente et je suis tombée sur le sol. En un instant, j'ai vu toute ma vie devant mes yeux. Et j'ai dit, avec la vie que tu as menée, tu mérites la mort. J'étais couchée, le visage sur le sol, et j'ai attendu que la mort vienne. Bien que la lumière était de partout autour de moi, tout était obscur pour moi. Et un des responsables de l'assemblée s'est agenouillé à côté de moi. Et il a ouvert la Bible. Et il a lu tous les passages qui font référence au pardon. Il n'y a pas de péché trop grand. Si celui qu'il confesse, le Seigneur est fidèle et juste pour le pardonner. Et tous ces versets, à chacun de ces versets, dès que j'entendais le mot pardon, c'était comme un interrupteur qui s'allumait. Et pour moi, la lumière est venue comme si c'était plein jour. Et je savais, Dieu peut me pardonner. Dieu m'a tout pardonné. Et j'ai reçu cette nouvelle vie. Et je me suis levée et j'ai dit, avec l'aide de Dieu, je ne retournerai pas en arrière. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a porté, m'a soutenu, que l'honneur et la grâce reviennent à lui. Il m'a sorti de la boue, comme nous le lisons dans le psaume 14. Verset 2. Donc, psaume 40, verset 2. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Comment est-ce que je peux remercier le Seigneur pour un si grand amour? Et personne ne peut tomber plus trop bas que le Seigneur ne peut le relever. Et il nous apprend au travers de son amour, au travers de son amour, de l'aimer. Aime le Seigneur Jésus de tout ton cœur. « Et alors, un miracle après l'autre vont se passer dans ta vie. C'est merveilleux de pouvoir être libéré et sauvé par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aimez le Seigneur de la même façon qu'il vous aime. Et moi, c'est ce que je veux faire également.